n'exalte plus vos lois nouvelles. Le peuple est sourd à vos accents. Assez de phrases solennelles, assez de mots vides de sens.
Assez de mots vides de sens.
Quand c'est la plus belle victoire, c'est la conquête de tes droits. Ce sont là tes plus beaux exploits, que puisse enregistrer l'histoire.
Chantons la liberté, défendons la cité.
Du manteau qui couvrait nos rois,
du manteau qui couvrait nos rois.
Que du sein de la nuit profonde, pour l'enchaîner la royauté, le flambeau de la liberté s'élève et brille dans le monde.
Chantons la liberté.
Chantons la liberté. Cette fois-ci, nous allons traiter des étapes de la révolution burkinabé. Alors, j'espère que vous êtes en forme, parce que c'est un peu un traité d'économie, ce qui peut servir par ces temps de disette. Alors, avant la révolution, un intellectuel africain, né en Haute-Volta, pendant la période coloniale, a décrit ainsi son parcours. Prenez mon cas. Sur 1000 enfants nés la même année que moi, la moitié sont morts au cours des 3 premiers mois. J'ai eu la chance extrême d'avoir pu y échapper. Tout comme c'est une chance de ne pas avoir été victime ensuite d'une de ces maladies que nous connaissons en Afrique et qui ont décimé tant d'autres personnes nées la même année que moi. Je fais partie des 16 enfants sur 100 qui ont pu aller à l'école. C'est une autre chance inouïe. Je fais partie des 18 enfants scolarisés sur 100 qui ont pu aller jusqu'au baccalauréat. Et des 300 étudiants sur l'ensemble du pays qui ont pu se rendre à l'étranger, qui se sont perfectionnés et qui, une fois de retour, étaient sûrs de trouver un emploi. Je fais partie des 2 soldats sur 100 qui ont eu une place stable et bien rémunérée parce que officier dans une armée où ce grade représente quelque chose. Car le colonialisme, c'était en effet les pays et ethnies divisés par des frontières coloniales artificielles tracées au cordeau pour mieux diviser et régner, en garantissant les futurs conflits pour violation de l'intégrité territoriale à chaque visite de famille ou divagation de bétail. C'était aussi les transports et voies de communication limités à l'exploitation du pays au bénéfice et en direction des pays colonisateurs. Donc, au XXe siècle, la majeure partie des terres étaient enclavés, isolés, sans route ni chemin de fer, ni électricité, ni téléphone. C'était un manque criant d'adduction d'eau, d'équipements sociaux ou de santé. C'était une espérance de vie tournant autour de 40 ans. C'était un taux d'analphabétisme de 98%. Et puis, il y a eu l'indépendance, avec en prime 23 ans de néocolonialisme, c'est-à-dire encore les structures coloniales qui restent en place, les dirigeants européens remplacés par des fantoches nationaux, mais pas nationalistes, mis en place par les anciens colonisateurs, et donc corrompu et docile. C'est ce qu'on appelle la Foucartisation des gouvernements. On reparlera plus tard de Jacques Foucart. Ce sont les centres de production qui ne sont plus dirigés officiellement par les colonisateurs, mais par les sociétés capitalistes occidentales développées avec le progrès technique des Trente Glorieuses, au plus grand mépris des populations maltraitées et des sites pillés et copieusement saccagés. C'est toujours l'analphabétisme et l'espérance de vie qui stagnent. Bien sûr, c'est le système électoral truqué qui multiplie les réélections des hommes de paille à des taux aberrants. 80, 95, 98% et plus. Et c'est la bourgeoisie administrative et la classe au pouvoir étalant un tel niveau de vie, avec tant d'exactions et d'abus, que les révoltes se multiplient. De janvier 66 jusqu'au printemps 83. Et les coups d'État se suivent. Dans cette société voltaïque, on distingue quelques milliers de privilégiés héritiers du colonialisme. C'est la classe dirigeante, les fonctionnaires, les militaires, des capitalistes nationaux et la vieille structure féodale, les chefferies, toujours très puissantes, chouchoutées par le colonialisme et le néocolonialisme. Tous ces privilégiés qui s'opposent à 7 millions de damnés de la terre, laborieux et misérables. Alors apparaît un jeune capitaine prestigieux, Thomas Sankara, qui devient ministre de l'Information, se démarque du pouvoir déliquescent, démissionne et devient Premier ministre. À la tête du groupe révolutionnaire des quatre, avec Baptiste Lingani, Henri Zongo et un certain Blaise Compaoré. Alors, le 4 août 1983, Thomas Sankara est porté à la tête du pays sans l'avoir vraiment, vraiment choisi. Deux mois après son arrivée au pouvoir, Sankara présente son programme. Pour le mettre en œuvre, il a été constitué le CNR, Comité National de la Révolution, qui deviendra le grand parti avec bureau politique et comité central, et dont une préoccupation majeure est l'unité nationale, c'est-à-dire l'union des différentes nationalités que compte la Haute-Volta, multitude d'ethnies se distinguant par leur langue et leurs coutumes, ensemble de nationalités formant la nation voltaïque, et que l'impérialisme et le colonialisme s'étaient évertués à dresser les unes contre les autres. Le Comité national de la Révolution recherche cette union pour que ces nationalités vivent dans l'égalité et jouissent des mêmes chances. Pour cela, il met l'accent sur le développement économique des différentes régions, les échanges économiques entre ces régions, l'abandon des préjugés ethniques et le règlement des différends, dans un esprit d'unité, mais aussi des sanctions en cas de tentative de division. La politique du CNR est activée au plan local par les Comités de défense de la Révolution, les CDR. Formation de type pyramidal avec secrétariat général, branches spécialisées par secteur professionnel, géographique, et centralisée et couronnée par le Comité national de la Révolution, le CNR. Le 2 octobre 1983, Sankara prononce le discours d'orientation politique, où il annonce les grandes réformes. Pour concrétiser le renouveau, le pays prend le nom de Burkina Faso, pays des hommes intègres. Vocable poétique qui associe deux noms appartenant aux langues principales du pays. Ensuite, pour éviter l'usure du pouvoir et ses privilèges, le gouvernement sera dissous et entièrement renouvelé tous les ans. Et les grands corps de l'État sont remaniés de fond en comble. Alors Sankara commence par ce qu'il connaît bien, là où il a pu observer des lacunes et des abus, c'est-à-dire l'administration et l'armée, bien sûr. Révision complète des statuts de la fonction publique, allègement et simplification de la bureaucratie pour plus d'efficacité et de rapidité, en réduisant au maximum les coûts de fonctionnement. Car, dit Sankara, en 1983, sur un budget national de 58 milliards, 30 000 fonctionnaires monopolisent 30 milliards. Et rien pour les autres. Si nous voulons plus de justice, il faut que chacun accepte de reconnaître où se trouve le peuple et quel sacrifice il doit faire pour que cette justice se réalise. Qui sont les 30 000 fonctionnaires? Des gens comme moi. Des gens qui ont connu un certain nombre de chances comparables. Ils sont 30 000 dans un pays de 7 millions d'habitants. Et à nous seuls, nous pompons plus de 30 milliards. Ça ne peut plus durer. Nous avons diminué les salaires. Les cadres ont perdu jusqu'à un mois de revenus. Les fonctionnaires ont dû renoncer à une partie de leurs indemnités, de 25 à 50%. Ces sacrifices sont imposés aux membres du gouvernement, auxquels nous faisons mener un train de vie très modeste. Vous avez dit crise ? Ça, c'est un discours de crise, un vrai. D'autre part, un militaire qui ne connaît que les armes est un assassin potentiel, dit Sankara, qui énonce les missions de l'armée au service du peuple. Le service national populaire, SERNAPO, est porté à 2 ans et assurera, bien sûr, la sécurité aux frontières et à l'intérieur du pays, autant que possible, en association avec des pays frères. Ainsi, il y a eu des manœuvres conjointes de l'armée du Ghana avec l'armée du Burkina Faso. Ça s'appelait les manœuvres Bold Union. Mais l'armée participera aussi à la production nationale, et pour les 3/4 de son temps. Insérée dans la population, elle va l'aider au quotidien dans ses travaux, agriculture, bâtiments, services, transport, courrier, etc., plutôt que de parasiter un peuple déjà si pauvre. Il sera aussi possible de faire, pendant le service national, l'apprentissage de métiers, agriculture, élevage, bâtiments. Et les cadres, médecins ou autres universitaires, avant de prendre leur poste dans la fonction publique, participeront pendant ces 2 ans à l'œuvre de formation de leurs concitoyens. Et ceci en abolissant les privilèges liés au grade dans l'armée, afin de supprimer ces abus de pouvoir caractéristiques, en formant une force politique responsable et égalitaire, respectueuse de chacun. Vous vous rendez compte? C'est à devenir militariste, hein, des trucs comme ça. En septembre 84, le premier gouvernement est dissous et ses membres sont affectés au contrôle des chantiers de construction de logements. En août 85, le deuxième gouvernement est dissous et ses ministres seront affectés comme chefs de projet dans les champs collectifs. En août 86, dissolution du troisième gouvernement. Et en septembre 87, dissolution du quatrième gouvernement.
Thank you.
Alors, si vous êtes en forme, on va attaquer maintenant le vif du sujet. La réforme agraire. C'est le point de départ de toutes les révolutions. René Dumont y a participé. Et Sankara déclare, en 1986, « Le pillage colonial et néocolonial des bois exotiques a décimé les forêts africaines sans la moindre pensée réparatrice pour nos lendemains. Nous ne sommes pas contre le progrès, mais nous souhaitons que le progrès ne soit pas anarchique et criminellement oublieux des droits des autres. Nous voulons affirmer que la lutte contre la désertification est une lutte pour l'équilibre entre l'homme, la nature et la société. À ce titre, elle est avant tout une lutte politique et non une fatalité. » Alors ici, en 83, les écolos passaient encore pour de doux dingues, mais au Burkina, on avait compris depuis longtemps. Au Burkina, en 83, plus de 90% de la population est paysanne. La réforme implique d'abord la nationalisation du sol, qui est effective le 8 août 1984. Elle implique aussi un grand programme d'irrigation par la construction de multiples petits barrages, par l'abandon des progrès pharaoniques de cultures extensives et au contraire par le développement d'une agriculture diversifiée sur des petites surfaces en accord avec les spécialisations régionales. La réforme implique aussi la réorganisation du travail et l'introduction de techniques agricoles modernes. L'abolition des taxes et services féodaux archaïques, oppressifs, dus aux chefferies, genre taille-gabelle, etc. La lutte contre la spéculation foncière et les importations concurrentes. Et on fixe aussi des prix rémunérateurs pour les paysans. On va associer l'agriculture à l'industrie agroalimentaire ou textile. Le Burkina est un grand producteur de coton. Ce qui va permettre de valoriser les stocks et d'assurer à tous, tout au long de l'année, des revenus corrects. Pour ça, on va construire des silos, des conserveries, des filatures. La réforme, c'est aussi, et surtout, le combat contre la désertification. Et on organise à ce moment-là ce qu'on a appelé les trois luttes. Alors, interdiction de coupe sauvage et anarchique du bois. Vous pensez qu'en Afrique, on cuisine essentiellement au bois. Hein, il n'y a pas de plaque de cuisson, il n'y a pas de four, ni à micro-ondes, ni auto-nettoyant. On cuisine au bois. Alors, ça fait beaucoup de dégâts. Interdiction de laisser divaguer les animaux. Et lutte, bien sûr, contre les feux de forêt. Reboisement systématique. En particulier dans ce qu'on a appelé la ceinture verte sahélienne. Mais avant Sankara, la ceinture, elle n'était pas du tout verte. Hein. C'était le désert, le Sahara, qui descendait. Et Sankara en a fait la ceinture verte sahélienne. Cette ceinture, ça part de la Mauritanie et ça va jusqu'au Tchad et au Soudan, et donc au nord du Burkina. Sankara s'est occupé de la ceinture verte sahélienne. Résultat, 10 millions d'arbres plantés en 85. Chaque événement heureux était l'occasion d'une plantation. Tout emménagement dans un nouveau logement oblige le bénéficiaire à planter un nombre minimum d'arbres qu'il élèvera avec le plus grand soin. Dans les villages et vallées des fleuves, les familles doivent chacune planter 100 arbres par an. Et chaque ville et village a créé son bosquet traditionnel. La réforme, c'est aussi la vulgarisation de ce qu'on a appelé les foyers améliorés. C'était des fourneaux. Je suppose que c'était des fourneaux en terre parce qu'il y a eu 83 500 fourneaux économiseurs de bois de cuisine fabriqué en 1986 par les femmes et les enfants. À partir de janvier 86, il y a eu ce qu'on a appelé la récolte populaire de semences forestières qui a permis d'approvisionner les 7000 pépinières villageoises. En février et mars 86, il y a eu des cours de gestion, d'organisation et d'entretien de l'environnement pour 35 000 paysans responsables de coopératives villageoises. Et en avril de la même année, ont été lancés les grands travaux d'irrigation de la vallée du Sourou. Il y a eu bien sûr création d'un ministère de l'eau et forage de 150 puits dans les 20 secteurs de Ouagadougou. Et Thomas Sankara a ajouté: les consciences émues, même sincères, de multiples forums et institutions ne pourront reverdir le Sahel. Lorsqu'on manque d'argent pour forer des puits d'eau potable à 100 mètres et que l'on en regorge pour forer des puits de pétrole à 3000 mètres. si je ne vous ai pas déjà endormi, on va s'attaquer à la réforme de l'économie et de la consommation. Mais si vous dormez, je vous fais un Larsen, vous allez voir, ça va vous réveiller. Sankara croit à la vertu de l'exemple et impose des restrictions symboliques, mais drastiques, du train de vie gouvernemental. Le plus spectaculaire et le plus visible a été le remplacement des Mercedes ministériels par des R5. Il y a eu aussi l'interdiction faite aux ministres de séjourner dans des hôtels de plus de 2 étoiles. Et la rémunération des ministres sur la base de leur salaire initial, avant leur entrée au gouvernement. Sankara, président, ne perçoit que son salaire de capitaine, et les instituteurs, devenus ministres, leur salaire d'instituteur. Sankara a multiplié la pratique de ce qu'on appelle l'avion stop, genre de covoiturage, si vous voulez, pour aller aux conférences internationales. Et bien sûr, la classe business était interdite. Il y a eu l'abolition des privilèges féodaux. Sankara a demandé à l'empereur Mossi, l'ethnie Mossi est une des plus importantes au Burkina, et Sankara a demandé à l'empereur Mossi de payer l'électricité consommée par sa cour. Il a eu beaucoup de succès. D'autre part, il y a eu des appels aux investissements étrangers africains, au Ghana, à la Libye, sans pour autant leur soumettre la politique burkinabé. Kadhafi a eu des nouvelles énergiques de Sankara quand il s'est mis à dérailler. Le 9 novembre 1983, il y a eu création de la Caisse de solidarité révolutionnaire pour venir en aide aux populations sinistrées du nord du pays. L'année suivante, en avril 1984, il y a eu réduction des loyers à partir de ce mois d'avril. Toujours en avril 1984, il y a eu distribution de terrains constructibles par les CDR de quartier pour résoudre la crise aiguë du logement. Le 21 octobre 1984 a été lancée la Régie nationale des transports en commun par autobus entre les principales villes. Le 3 décembre 1984, il y a eu l'élaboration du programme populaire de développement. Après vote favorable de 3000 délégués pour des ponctions provisoires sur les salaires, lesquelles ponctions ont été restituées fin 85, une fois le but atteint. Ce programme a concerné en particulier l'autosuffisance alimentaire au Burkina, l'accroissement de la couverture export-import, qui était de 25% seulement en 83, et la consommation burkinabé de la production burkinabé, textile mais aussi alimentation. Et aussi, bien sûr, l'évolution correspondante des mentalités. Le 1er février 1985 a été lancée la bataille du rail, à laquelle tout le pays a participé. Il y a eu aussi cette année-là l'annulation du paiement des loyers d'habitation pour toute l'année 1985. En janvier 1986, une taxation de 5 à 12% sur les salaires a été prélevée pour le pays, l'EPI, c'est-à-dire l'effort populaire d'investissement. Et Sankara a précisé, à ceux qui n'étaient pas contents, le salaire ne disparaît pas du fait de l'effort populaire d'investissement, mais à cause des bières, des brochettes, du luxe, des voitures hypothéquées, des visites chez les marabouts. Ça, c'était gérer une crise. Et Sankara était obligé de faire ça parce que le gouvernement se trouvait en panne des crédits de coopération que Mitterrand avait coupés. Parce que Mitterrand, il n'appréciait pas du tout Sankara. Il l'appréciait tellement pas qu'en cherchant bien, on finira bien par trouver des choses tristes. À savoir qu'il a bien organisé sa chute et pire. Le 4 août 86, troisième anniversaire de la révolution Sankara, et Sankara annonce le prochain plan quinquennal de développement.
Et voilà.
De la condition féminine, on en a déjà parlé, mais on y revient un petit peu. C'était un tel bonheur. La vraie émancipation de la femme, c'est celle qui force le respect et la considération de l'homme, dit Sankara à 3000 déléguées féminines, le 8 mars 85. Donc, responsabilisation des femmes, associées aux activités de production, à tous les combats du peuple, priorité à l'alphabétisation des filles et femmes de toute tranche d'âge. Éducation sanitaire et planning familial. Sensibilisation au rôle majeur des femmes, qui sont au Burkina 52% de la population active. Éducation masculine correspondante, jour de marché des hommes, partage des tâches ménagères, ouverture de cantines et de crèches, rendant les femmes disponibles pour la vie active et citoyenne. Formation professionnelle, ouverture du marché du travail, de l'armée, participation à tous les grands travaux, barrages, batailles du rail, etc. Et la réforme de la santé. Alors, en 83, état des lieux, un lit d'hôpital pour 1200 habitants. Et un médecin pour 48 000 habitants. Écoutons Thomas Sankara. Nous, qui parlons de droits de l'homme, de baisse du pouvoir d'achat, de climat de terreur, nous oublions que nous avons condamné à mort des milliers d'enfants pour n'avoir pas accepté qu'on diminue un tant soit peu notre salaire afin de réaliser un petit dispensaire. Imaginez que dans ce pays, on parlait par le passé d'instaurer le 13e, voire le 14e mois de salaire, pendant que des gens mouraient, faute d'avoir pu acheter un petit comprimé de Nivacaine, ce qui permet de traverser les crises de palud. Les objectifs à atteindre se résument ainsi. Santé à la portée de tous. Mise en œuvre d'une assistance et d'une protection maternelle et infantile. Politique d'immunisation contre les maladies transmissibles par la multiplication des campagnes de vaccination et sensibilisation des masses pour l'acquisition de bonnes habitudes hygiéniques. Ces objectifs devant être atteints avec l'engagement conscient des masses populaires. Lors de la première campagne de 15 jours, en novembre 1984, 2 560 000 enfants de moins de 15 ans, certains venant des pays voisins, sont vaccinés contre la méningite, la fièvre jaune et la rougeole. Et au début de 1987, un programme enraye l'onchocercose ou cécité des rivières, qui est un des pires problèmes sanitaires au Burkina. La réforme de la justice. Ont été organisés des tribunaux populaires de la Révolution à partir d'octobre 83. Alors il y a d'abord au premier degré les tribunaux populaires de conciliation dans les villages et les quartiers. Il y a les tribunaux populaires départementaux et les tribunaux populaires provinciaux de recours. Le jury est un jury populaire. Des commissions du peuple sont chargées des investigations et on assiste à la naissance d'un droit révolutionnaire qui rejette les textes de la société néocoloniale, laquelle société, comme la nôtre, jugeait en droit et non en équité. Si vous avez eu le malheur de voir porter un de vos soucis au tribunal, si vous n'étiez pas content du résultat, probablement que juge ou avocat vous auront dit que il juge en droit et pas en équité, ce qui est déjà une excellente raison de faire la révolution. C'est ce qui fait appeler le palais de justice « palais d'injustice », comme dit mon amie Juliette. Les audiences sont radiodiffusées. Les TPR, tribunaux populaires de la révolution, misent sur la réinsertion des délinquants et libèrent 88 prisonniers de droit commun ayant opéré une vraie insertion. Selon la formule de Sankara, pour nous, révolutionnaires, notre victoire, c'est la disparition des prisons. Je répète pour M. Manuel Valls, pour nous, révolutionnaires, notre victoire, c'est la disparition des prisons. Et on arrive à la réforme de l'éducation. En 1983, 92% d'analphabétisme et 16,4% d'enfants scolarisés. Sankara diagnostique le désespoir de la jeunesse, comme ça. Désertant les campagnes pour chercher un travail rémunérateur en ville, créant une grave pénurie de main-d'œuvre agricole. Les jeunes ne trouvent pas d'emploi du fait de leur illettrisme et finissent en prison ou en sinistre exil après avoir collecté les maigres économies de leur famille dont ils portaient l'espoir. En 1985, 22% des enfants sont scolarisés et la campagne d'alphabétisation se poursuit avec tous les moyens. Celui qui sait lire aura le devoir d'apprendre à lire à un certain nombre de personnes. En septembre 84, il y a eu une baisse de 50% des frais de scolarité en primaire et en secondaire. L'école et ses diplômés seront au service du peuple et de la révolution, libérant les Burkinabés du sinistre mimétisme exercé par la culture européenne et formant le sens critique qui engendre la liberté. Les expériences d'autres pays seront étudiées, ainsi que toutes les méthodes d'apprentissage et de motivation. En février 86, il y a une campagne de 2 mois d'alphabétisation commando dans les langues vernaculaires, impliquant 35 000 personnes en milieu rural. Et la réforme encourage tous les arts au service de la culture révolutionnaire, populaire et voltaïque, témoin du passé et défricheur d'avenir. Car, dit Sankara, il faut savoir puiser ce qu'il y a de bon dans le passé, c'est-à-dire dans nos traditions, ce qu'il y a de positif dans les cultures étrangères, pour donner une dimension nouvelle à notre culture. La source inépuisable pour l'inspiration créatrice des masses se trouve dans les masses populaires. Savoir vivre avec les masses, s'engager dans le mouvement populaire, partager les joies et les souffrances du peuple, travailler et lutter avec lui, devrait constituer les préoccupations majeures de nos artistes. Et Sankara a même révolutionné les loisirs. Les maquis, qui étaient les boîtes de nuit à l'européenne, sont fermés. Il vendait des boissons occidentales à des prix exorbitants, ce qui interdisait aux jeunes du pays d'aller danser. Ils ont tous été transformés en bals populaires, avec des consommations locales, à prix modique, fréquentées par tous, y compris ministres et présidents.
Yeah.
Les comités de défense de la Révolution, efficaces pour former à la Révolution toutes les couches de la population, dans toutes les activités et toutes les régions, se révélèrent aussi une machine tentaculaire, dont les éléments de base ont parfois échappé au cadre, et lassé, sinon terrorisé le peuple. Tandis que les commissions du peuple écrasaient toute opposition, communiste en particulier. Sankara en était conscient et avait tenté d'y remédier, en 86 et en août 87. Trop tard sans doute. Le Comité national de la Révolution multiplie en 87 les arrestations de dirigeants syndicaux et de communistes. Les CDR ont suscité l'opposition profitable à Blaise Compaoré pour prendre la place de Sankara, qu'il a éliminé. Aujourd'hui, retour à la case départ. Corruption, népotisme, disparition ou mort inexpliquée, inégalité et gaspillage criant. Un enfant sur deux n'est pas scolarisé. Le pays des hommes intègres n'est plus que celui où règne Blaise Compaoré. Celui-là qui prépare son frère à sa succession, avec la bénédiction de la France-Afrique. Car François Hollande, qui affirme que le système a vécu, a reçu Compaoré rue de Solferino dès 2011. Et Ségolène Royal, en vraie émule d'Alliot-Marie, est allée jusqu'à Ouagadougou ce dernier printemps pour assurer le Blaise de son fidèle soutien. Et notre nouveau gouvernement l'a accueilli ce 18 septembre 2012 pour fêter à l'avance peut-être l'anniversaire de l'assassinat de Sankara. Au secours !
Français, ne soyons plus esclaves, sous le drapeau rallions-nous, sous nos bras brisons les entraves, 89 réveillez-vous, 89 réveillez-vous, frappons du dernier anathème, ceux qui par un stupide orgueil ont tout de nos frères morts sans emblème.
Chantons la liberté, défendons la cité.
Marchons,
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 marchons.
Sauvera, le peuple aura du pain. Voilà, Contre-histoire est terminée pour aujourd'hui. À bientôt.